Il n'y a pas de fête, même triste par définition, qui ne comporte au moins un début d'excès et de bombance. Il n'est qu'à évoquer les repas d'enterrement à la campagne. De jadis ou d'aujourd'hui, la fête se définit toujours par la danse, le chant, l'ingestion de nourriture, la beuverie. Il faut s'en donner tout son soûl, jusqu'à s'épuiser, jusqu'à se rendre malade. C'est la loi même de la fête. Dans les civilisations dites primitives, le contraste a sensiblement plus de relief. La fête dure plusieurs semaines, plusieurs mois, coupée par des périodes de repos de 4 ou 5 jours. Il faut souvent plusieurs années pour réunir la quantité de vivres et de richesses qu'on y verra non seulement consommées ou dépensées avec ostentation, mais encore détruites et gaspillées purement et simplement, car le gaspillage et la destruction, forme de l'excès, rentrent de droit dans l'essence de la fête. Celle-ci se termine volontiers de façon frénétique et orgiaque, dans une débauche nocturne de bruit et de mouvement que les instruments les plus frustes, frappés en mesure, transforment en rythme et en danse. Selon la description d'un témoin, la masse humaine, grouillante, ondule en pilonnant le sol, pivote par secousses autour d'un mât central. L'agitation se traduit par toute espèce de manifestation qui la croisse. Elle s'augmente et s'intensifie de tout ce qu'il exprime. Choc obsédant des lances sur les boucliers, chants gutturaux fortement scandés, saccades et promiscuités de la danse. La violence naît spontanément. De temps en temps, des rixes éclatent. Les combattants sont séparés, portés en l'air par des bras vigoureux, balancés en cadence jusqu'à ce qu'ils soient calmés. La ronde n'en est pas interrompue. De même, des couples quittent soudain la danse, vont s'unir dans les taillis voisins et reviennent prendre leur place dans le tourbillon qui continue jusqu'au matin. On comprend que la fête, représentant un tel paroxysme de vie et tranchant si violemment sur les menus soucis de l'existence quotidienne, apparaisse à l'individu comme un autre monde, où il se sent soutenu et transformé par des forces qui le dépassent. Son activité journalière, cueillette, chasse, pêche ou élevage, ne fait qu'occuper son temps et pourvoir à ses besoins immédiats. Il y apporte sans doute de l'attention, de la patience, de l'habileté, mais plus profondément, il vit dans le souvenir d'une fête et dans l'attente d'une autre. Car la fête figure pour lui, pour sa mémoire et pour son désir, le temps des émotions intenses et de la métamorphose de son être.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 des Yeux ont des oreilles. Vous ne reconnaissez probablement pas la voix de Nicolas, mais vous venez de prêter l'oreille à celle speakerinesque de Céline qui vient de vous lire un extrait de L'Homme et le Sacré de Roger Caillois, texte qui vous a probablement mis la puce à l'œil, aïe, quant au thème de cette nouvelle émission. Fête, Java, orgie, bombance, fiesta, ribouledingue, oui oui, de l'ancien français ribouledinguer, verbe lui-même issu de reboule, fête à la fin de la moisson, sont aujourd'hui à l'honneur. Mais je vous vois venir, horde de fans dévoués, prêts à inonder les rues au rythme de slogans tels que « Libérez Nicolas ». Je vais mettre fin à vos questionnements existentiels et vous dire que si nous célébrons quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas parce que Noël, le Nouvel An et les indigestions approchent. Non, non, tout ça c'est trop mainstream après tout. Si aujourd'hui c'est jour de fête, c'est parce qu'autour de cette table ne sont présentes que des filles. Mathilde a revêtu son plus bel habit de lumière pour l'occasion. Bonjour Mathilde.
Bonjour Agère.
Et Céline nous honore de son esprit festif et allègre.
Bonjour Agère.
Bon d'accord, on a fait entorse à la règle parce qu'il y a Clément à la régie. Bonjour Clément. Il dit bonjour. Et comme Les yeux ont des oreilles est une émission de service public comme chacun sait, on en veut pour preuve l'épisode qui a fait date, je parle bien entendu de Ce n'est pas la taille qui compte, on va tout de suite vous mettre en garde contre les excès alimentaires qui vous attendent très bientôt. Vous avez ce genre de repas qui vous fait jurer, après avoir ingurgité votre poids en dinde et foie gras, que non non, la nourriture et vous c'est fini, et que plus jamais ça. Mathilde s'apprête donc à vous lire un extrait du 7e chapitre de l'Assommoir, dans lequel Gervaise, blanchisseuse prospère à ce stade du roman, donne un fastueux repas auquel sont invités famille, amis et voisins.
Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette, c'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à la voir toute rose de nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne. Elle ne parlait pas, mais elle se dérangeait à chaque instant pour soigner le père Bru et lui passer quelque chose de délicat sur son assiette. C'était même touchant de regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche pour le donner au vieux, qui ne semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse, abêti de temps baffré, lui dont le gésier avait perdu le goût du pain. Les Lorilleux passaient leur rage sur leur rôti. Ils en prenaient pour 3 jours, ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bamban du coup. Toutes les dames auraient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que Madame Coupeau, qui adorait le coup, en arrachait la viande avec ses 2 dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau. Quand elle était rissolée et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie. Si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'elle en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir trop mangé d'oie rôtie, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que l'oie avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, l'oie guérissait les maladies de rate. On croquait ça sans pain comme un dessert. Lui en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Boche, qui lui disait tout bas des indécences. « Ah, nom de Dieu, oui, on s'en flanqua une bosse. Quand on y est, n'est-ce pas ? Et si l'on ne se paie pas qu'un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient par leur peau les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse. Ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité. » Et le vin donc, mes enfants, ça coulait autour de la table comme l'eau coule à la Seine, un vrai ruisseau lorsqu'il a plu et que la terre a soif. Coupeau versait de haut pour voir le jet rouge écumer, et quand un litre était vide, il faisait la blague de retourner le goulot et de le presser du geste familier aux femmes qui traient les vaches. Encore une négresse qui avait la gueule cassée. Dans un coin de la boutique, le tas des négresses mortes grandissait, un cimetière de bouteilles sur lequel on poussait les ordures de la nappe. Madame Putois avait demandé de l'eau. Le zingueur indigné venait d'enlever lui-même les carafes. Est-ce que les honnêtes gens buvaient de l'eau ? Elle voulait donc avoir des grenouilles dans l'estomac. Et les verres se vidant d'une lampée, on entendait le liquide jeté d'un trait tomber dans la gorge avec le bruit des eaux de pluie le long des tuyaux de descente les jours d'orage.
Tout le monde chante, tout le monde danse, oui mamselle, ça c'est la France. Avant dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maninette.
Après cette parenthèse gloutonne, retour aux bonnes manières et un peu d'élégance. Dans le bleu de ces jardins, entre murmures, champagne et étoiles, c'est les décors du texte et des réjouissances qu'Agère va maintenant nous faire découvrir. Non, vous n'y êtes pas du tout, ce n'est pas le jardin de l'ENS de Lyon. Imaginez plutôt Long Island, le jazz, des villas huppées, un voisin mystérieux et séduisant bien sûr. Oui, vous y êtes, Gatsby le Magnifique, par Francis Scott Fitzgerald. La célébrité, l'excès, l'amour et bien sûr la fête.
Une fois au moins par quinzaine, un détachement de décorateurs arrivait avec plusieurs centaines de mètres de toile et une quantité de lumière de couleur suffisante pour transformer le parc de Gatsby en un gigantesque arbre de Noël. Sur des tables, garnies de hors-d'œuvre luisants, s'entassaient des jambons épicés et cuits au four parmi des salades multicolores comme des manteaux d'arlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teintes de brun doré. Dans la galerie principale, on installait un bar muni de son appui-pied en cuivre et garni de jeans, de liqueurs et de cordiaux depuis si longtemps oubliés que la plupart des invités étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. Vers 7 heures arrive l'orchestre. Non pas un petit orchestre de 5 exécutants, mais une pleine fosse de hautbois, trombones et saxophones, de viols, de clarinettes et de piccolos, de tambours alto et basso. Les derniers nageurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres. Les autos de New York sont garés, 5 de front dans l'allée, et déjà les galeries, les salons et les vérandas s'égaient de couleurs, de cheveux coupés suivant d'étranges modes, et de châles qui éclipsent tous les rêves de Castille. Le bar fonctionne à plein rendement et les cocktails flottent sur des plateaux dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum. Si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardages et de rires, d'insinuations nonchalantes, de présentations sitôt oubliées que faites, et d'enthousiastes rencontres entre femmes qui n'ont jamais connu leurs noms respectifs. Les lumières s'avivent à mesure que la terre accomplit l'embardée qui la détourne du soleil. À présent, l'orchestre joue une musique jaune cocktail et le cœur des voix monte d'un ton. De minute en minute, le rire devient plus facile, s'épanche avec plus de prodigalité. C'est cool comme d'une coupe qu'un mot joyeux suffirait à renverser. Les groupes changent plus rapidement, s'enflent de nouveaux arrivés, se dissolvent et se reforment, le temps de prendre haleine. Déjà on voit des vagabondes, filles confiantes qui font la navette ici et là, parmi leurs sœurs plus corpulentes et plus stables, deviennent pendant un instant vibrant et gai le centre d'un groupe, puis, animées par leur triomphe, s'éloignent en glissant sur l'océan changeant des visages, des voix et des couleurs, sous la lumière qui change sans cesse. Soudain, une de ces bohémiennes, vêtue d'une robe qui la transforme en une tremblotante opale, cueille un cocktail dans l'atmosphère, l'avale d'un trait pour se donner courage et, agitant les mains comme le danseur Frisco, danse seule sur la plateforme de toile. Un silence se fait, l'obligeant chef d'orchestre altère pour elle le rythme et des rires éclatent quand circule la nouvelle, fausse d'ailleurs, que c'est la doublure de Gilles Dagret, l'étoile des folies. La fête a commencé. Je crois bien que le premier soir où j'allais chez Gatsby, j'étais un des rares assistants qui eussent été invités. On n'y était point invités. On y allait sans plus de cérémonie. On montait dans des autos qui vous menaient à Long Island et je ne sais comment, on se trouvait déposé devant la porte de Gatsby. Une fois là, on était présenté par quelqu'un qui connaissait Gatsby. Ceci fait, on se conduisait suivant l'étiquette de mise dans un quelconque Luna Park. Il arrivait que, venu à la fête avec une simplicité de cœur qui tenait lieu de carte d'admission, on s'en retourna sans même avoir fait la connaissance de son hôte.
Mister Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle, hein.
La fête est-elle vraiment plus folle sans alcool ? Vaste débat, car si certains me diront que ce qui fait toute la magie de la fête, c'est l'ivresse, moi j'aurais tendance à penser que l'on ait ou non abusé de la boisson, ce qui nous pousse à faire la fête, c'est la recherche d'une parenthèse folle durant laquelle l'euphorie fait tomber l'ordre établi. Jugez-en vous-même en écoutant la douce voix de Céline, qui vous fait plonger dans le tourbillon carnavalesque de Théophile Gautier, rien que pour les yeux de vos oreilles. Ou le contraire, je ne sais plus trop bien en fait.
Venise pour le bal s'habille. De paillettes tout étoilées, scintillent, fourmis et babillent, le carnaval bariolé. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre sans souffre-douleur. Battant de l'aile qu'avec sa manche, comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot par une blanche, passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bolognais rabâche, avec la basse où sont traînés, Polichinelle qui se fâche, se trouve une croche pour nez. Heurtant Trivelin qui se mouche, avec un tri extravagant, à Colombine Scaramouche, rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse, un domino ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses, aux paupières de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur, cet arpège m'a dit, c'est elle, malgré tes réseaux j'en suis sûre. Et j'ai reconnu, rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, sa lèvre au fin duvet de pêche et la mouche de son menton.
Ah, je ne sais pas vous, mais moi, à l'écoute de ces danses vénitiennes de Campra, l'esprit festif s'empare de moi. Chers auditeurs, heureusement que chez Transistor, nous ne sommes pas encore passés à la radio filmée, car vous auriez assisté au spectacle déconcertant de mes déhanchements dans le studio. Rassurez-vous d'ailleurs, car à la place, vous avez droit à la lecture par Agère d'un extrait de La Danse du Dragon par Earl Lovelace.
Petit à petit, Aldric avança jusqu'à la tête du groupe. Il vit Sylvia. Elle dansait toujours avec sa vertigineuse vivacité. Elle dansait à tout casser. Son corps se tordait frénétiquement, s'agitait autour de sa taille. Elle sautait et elle bougeait. Elle refusait d'abandonner cette visibilité, ce moi que lui avait donné le carnaval. Elle se tenait en équilibre sur le roulement de ses hanches. Elle se baissait, se relevait sur un rythme ondulant. Elle levait les bras et bondissait comme si elle voulait échapper à son corps pour entrer dans son moi. Un moi dans lequel elle pourrait exister pour toujours. Il la regarda danser dans les profondeurs de la musique, dans les entrailles du carnaval, dans chacune de ses notes, dans son âme, dans la sonorité claire des cercles d'acier. Tout son être n'était qu'un appel, un hurlement, un rugissement, un cri, un cyclone de larmes célébrant son moi et priant pour que ce moi vive au-delà du carnaval et de son costume d'esclave. Il la regarda. La sueur lui coulait sur le visage, lui éclatait sur la peau, trempait son costume. Il voulait tendre le bras et la tenir, non pas pour la préparer en douceur à la fin prochaine du carnaval, mais pour la rejoindre dans sa grande danse extatique, dans son appel, pour tourbillonner avec elle dans le cyclone de larmes créatrices. Il voulait se perdre et se retrouver en elle, s'éloigner avec elle dans le tourbillon où il disparaîtrait dans le moi qu'elle rappelait, qu'elle évoquait, qu'elle suppliait. Il la regardait. Et devant cet appel à la vie, devant ce cyclone de larmes suppliantes et créatrices, il fut soudain frappé de trouver son dragon bien petit, avec ses griffes menaçantes et ses flammes, comparé au cri de la jeune fille. Il voulait lui donner la vie, lui donner son moi, mais comment faire? Il savait menacer, il lui fallait apprendre à vivre et à donner la vie. Cette pensée lui frappa l'esprit comme un éclair, et elle le rendit humble. Soudain, il voulut toucher Sylvia, lui dire par ce geste ce qui venait de lui être révélé. Il s'aperçut qu'il s'approchait d'elle. Il glissait entre les danseurs pour venir à ses côtés. « Sylvia !» Il tendit la main pour la toucher, pour recevoir sa bénédiction et pour lui donner la sienne, pour la soutenir et recevoir son soutien. C'est alors qu'elle le vit. Elle vit sa main droite tendue vers elle, et d'une pirouette, elle fut hors de portée. Elle se tourna vers lui, enveloppée d'un immense dédain.
Vous l'avez compris, chers auditeurs, cette émission est un peu particulière. On en a profité pour débarquer Nicolas. Bon... En fait, Nicolas, c'est plutôt le dentiste qui t'a fait ta fête.
Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête.
Oui, mais... On a beau mettre le monde à l'envers, les yeux ont des oreilles, c'est aussi une voix grave et masculine, comme un exhausteur de goût pour faire ressortir nos propres timbres mélodieux.
Ça va trop loin.
Vous l'aurez compris, Nicolas nous manque un peu. Alors, comme c'est quand même Noël, on lui a proposé un texte de circonstance. Ce qui suit peut potentiellement endommager vos oreilles délicates. Après son opération, vous comprenez les consonnes, c'est un peu dur.
Luc 2, verset 6. Or, pendant qu'il était là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, en maillotra, et les épouvards ont dû m'en voir, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait, pour le même pays, des bergers, qui vivaient au champ et montaient à garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui fera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
Donc la fête, finalement, c'est le moment licencieux par excellence, on l'a vu. C'est un moment hors des normes sur tous les plans. Sur le plan financier, par exemple, avec Gervaise dans l'Assommoir, elle ne se ruine pas parce que dans le roman, elle est justement à l'acmé de sa réussite et donc elle se permet de donner une fête.
Elle vend une robe au Mont-de-Piété pour pouvoir acheter du vin, en fait. Donc, pas tout à
d'accord.
fait. Non. Elle se ruine vraiment pour la fête.
Okay. Et c'est aussi pour, ça a aussi une dimension sociale puisqu'elle essaie de rendre jaloux ses voisins, comment ils s'appellent déjà?
Oui.
Les Lutilleux, c'est ça?
Oui, exactement.
Voilà, elle essaie de les rendre jaloux. Mais en même temps, la fête, c'est aussi un moment officiel. On pense aux fêtes nationales, etc. Les fêtes, c'est aussi un moment qui est marqué par l'étiquette et la cérémonie. Mmh. Alors, il y a une sorte de contradiction entre la fête, qui est le moment de la transgression, et la fête par laquelle on fixe une identité, puisqu'on célèbre des moments qu'on définit comme important dans une identité dite nationale ou autre.
En fait, moi, je ne vois pas vraiment de contradiction dans ce que tu as soulevé, parce que, justement, le règne de la transgression et le règne des fêtes plus ou moins officielles, qu'elles soient religieuses ou autres, on l'a vu dans le premier texte de Kaiwa, c'est aussi une manière de se rapprocher du sacré, tout simplement, d'obtenir un sacré quelconque. Alors, par la transgression, pourquoi pas. Et puis, le sacré des fêtes religieuses, on peut penser au mariage, etc. Et c'est une manière pour les hommes de sentir, en un sens, peut-être des dieux, pour un moment, justement. Enfin, c'est, je pense, la manière dont Kaiwa l'envisage. Une parenthèse par laquelle on essaie d'atteindre ce qu'il appelle donc cette métamorphose de l'être.
Est-ce que justement, avec la fête nationale, on n'a pas justement la recherche d'un moment de liesse collective dans le but justement de célébrer la nation de façon commune, en fait. C'est un moment de rassemblement, certes joyeux sur un motif officiel, mais vraiment de liesse collective.
Et dépourvu du coup de la dimension transgressive qu'il peut y avoir dans le carnaval, par exemple.
Donc oui, une fois n'est pas coutume, la régie a quelque chose à dire, comme la dernière fois. Moi, je voudrais juste te dire que c'est peut-être ce qu'il y a de transgressif dans la fête, c'est justement le rituel, parce qu'un rituel, c'est un ensemble de pratiques qui sort de l'ordinaire. On le voit dans le texte de Gatsby, par exemple, où c'est pas une fête religieuse, mais il y a toute cette dimension rituelle où on prend la voiture, on va à un endroit, il y a une certaine étiquette. Et c'est pareil dans une fête nationale, il y a cette dimension rituelle, c'est quelque chose qui intervient qu'une fois par an et donc qui est exceptionnel dans son déroulement. Et je pense que c'est... Ben, moi, je le vois juste comme ça, la transgression dont tu parlais dans la fête, dans cette dimension rituelle, qu'elle soit religieuse, civile ou pas.
À ton avis, le seul fait que ce soit exceptionnel suffit à lui donner une dimension transgressive? Parce qu'il y a quand même une différence entre le fait que ce soit transgressif et le fait que ce soit exceptionnel ou ponctuel.
Moi, je disais juste que c'était transgressif, pas forcément dans un sens péjoratif, mais vraiment parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude.
Une rupture avec le quotidien.
Voilà, c'est une rupture avec le quotidien. On rompt une norme même quand on fait une fête. Il y a une volonté de rompre une certaine norme. La fête de Gervaise, c'est pour rompre une certaine norme sociale aussi. C'est pour se sortir un petit peu de ce milieu social dans lequel elle est enracinée. Et donc, dans la suite du roman, bah, elle tombe et elle chute encore plus.
Toute l'ironie, je crois, du texte de Zola, c'est qu'elle essaie de sortir de son milieu social, disons, alors qu'il revient un peu au galop dans le texte, parce qu'on voit la manière dont se comportent les invités à ce festin.
Je tiens à préciser qu'au début du chapitre, il précisait qu'en fait, alors, elle a un mari qui est alcoolique, qui dépense tout leur argent dans l'alcool, et elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, autant qu'elle en profite, elle aussi, elle dit plutôt enrichir le boucher que le marchand de vin, c'est-à-dire elle est contente de dépenser son argent pour cette fête, parce qu'elle sait que cet argent qui va être dépensé dans la nourriture, et aussi l'alcool, mais bon, sera pas dépensé par son mari finalement au bistrot. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément évoqué, si ce n'est par le thème du carnaval, c'est peut-être justement le fait que dans cette rupture du quotidien, on a aussi une rupture avec son identité quotidienne et la notion de travestissement.
La fête comme moment où tout est possible.
Voilà, où finalement on se donne une identité autre en fait.
Voire on révèle son identité véritable par le biais du masque. Oui, et le masque qui révèle plus qu'il ne cache, etc.
Oui, la fête déguisée également, dont on n'a pas parlé.
Il y a de très beaux passages chez Shakespeare, dans ses comédies notamment, où il y a énormément de fêtes comme ça, de bals masqués, où les personnages en profitent pour réellement se dire ce qu'ils ont toujours envie de se dire. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais sous couvert justement de la fête. Et c'est une manière tout à fait détournée de parvenir à la vérité par le biais des masques. Donc c'est très intéressant aussi.
L'angliciste a parlé. Je trouve que, bizarrement, la fête, c'est jamais un moment perçu comme positif dans l'été. Enfin, c'est rarement perçu comme positif. C'est un moment d'excès et parfois il y a souvent des accents un peu moraux dans les textes qui parlent de fête. S'il n'y a pas d'accent moraux, il y a souvent une dimension un peu animale, vous savez, dans l'excès, etc. La gloutonnerie, par exemple, dans le texte de Zola, si on y revient.
Alors justement, j'allais dire que le petit paradoxe quand même, c'est que d'un côté, on pourrait croire que c'est vraiment un phénomène social, la fête. C'est une occasion de se retrouver, un moment de sociabilité. Et en même temps, voilà, comme tu l'as dit, on revient à une nature un peu animale de l'homme.
Primitive.
Voilà, un peu primitive, justement. Alors même qu'on pourrait croire que c'est... Voilà, comme c'est un moment de sociabilité particulière, on pourrait croire que c'est aussi associé à la civilisation. Et je pense que c'est un paradoxe qui est en œuvre avec cette notion de fête.
La manière dont c'est aussi écrit dans les textes, c'est que donc on a cet aspect primitif qui refait surface, mais on a aussi très souvent le sentiment que c'est un moment justement passager qui rompt certes avec le quotidien, mais qui va nous mener in fine de nouveau au quotidien et à la vie de tous les jours. Et on a cet aspect un peu à la fois nostalgique, un peu morose, qui cohabite tout le temps dans les textes. Je pense à Gatsby par exemple, puisqu'on a quand même, on sent qu'il y a beaucoup de superficialité derrière tout ça. Il y a d'autres textes de Boris Vian par exemple, qui était un grand fêtard, ou alors Hemingway qui a écrit Paris est une fête. Et on a toujours ce sentiment un arrière-fond un petit peu doux amer, puisqu'on sait très bien qu'on va en profiter, mais que ça a une fin. Donc c'est vrai que la fête n'est jamais très festive dans les textes. J'ai du mal à trouver un texte qui présenterait la fête comme un phénomène totalement positif, au-delà de l'animalité ou d'où la nostalgie. Il reste à inventer peut-être. Auditeurs, faites-nous vos propositions ou à vos plumes.
Vous pouvez commenter sous ce podcast pour faire part de vos suggestions. Non, mais c'est vrai que l'ivresse de la fête est plus évoquée du point de vue de la gueule de bois qui s'ensuit. C'est une espèce de nostalgie de la fête. Le lendemain de la fête, c'est toujours un peu triste. C'est jamais complètement joyeux.
Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de la saison 2 de Lésion des oreilles, un peu chamboulé pour l'occasion. On espère vous avoir arraché le temps de l'émission au quotidien hivernal de ces derniers jours. Et on espère aussi vous avoir presque donné envie, là tout de suite, de boire du champagne. Merci à Clément à la régie, qui a très stoïquement assisté à tous nos délires, impassible, très professionnel comme toujours. Merci à sa participation aussi. Merci à Mathilde et à Ger, qui ont très volontiers accepté de se plonger le temps de l'émission, je vous rassure, dans la débauche et la licence, pour la préparation, les conseils et les lectures. Mais surtout, merci à Nicolas, héroïque malgré les consonnes, auteur d'un massacre biblique de plus dans la grande tradition de Willem. Il va bien sûr de ce pas remettre de l'ordre dans l'émission. On lui souhaite aussi un bon rétablissement. Et à vous, chers auditeurs, toute l'équipe vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. On espère que vous profiterez comme il se doit des réjouissances qui s'annoncent, et aussi que vous trouverez de la littérature sous le sapin. N'oubliez pas, lire est une fête, qu'il s'agisse d'un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. On se retrouve donc tous en 2015, mais avant cela, retour dans un passé primitif et pour le moins déchaîné.
Les vapeurs de l'ivresse, l'obscurité de la nuit, le mélange des sexes et des âges eurent bientôt éteint tout sentiment de pudeur, et l'on s'abandonna sans réserve à toutes sortes de débauches. Chacun trouvait sous sa main les voluptés qui flattaient le plus les penchants de sa nature. Le commerce infâme des hommes et des femmes n'était pas le seul scandale de ces orgies. C'était comme une sentine impure d'où sortaient de faux témoignages, de fausses signatures, des testaments supposés, de calomnieuses dénonciations, quelquefois même des empoisonnements et des meurtres si secrets qu'on ne retrouvait pas les corps des victimes pour leur donner la sépulture. Souvent la ruse, plus souvent encore la violence, présidait à ces attentats. Des hurlements sauvages et le bruit des tambours et des cymbales protégeaient la violence en étouffant les cris de ceux qu'on déshonorait ou qu'on égorgeait.